Nous sommes le mercredi 7 septembre, il est 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, Total fait le plein et ses concurrents attendent clients désespérément. La colère gronde. Le pétrolier français est accusé d'avoir trop baissé les prix à la pompe, jusqu'à 30 centimes de moins par litre. Reportage dans un instant du côté de Nantes. La guerre en Ukraine qui rebat les cartes. L'armée française est-elle désarmée en cas de conflit de haute intensité? Réunion au sommet aujourd'hui entre le ministre de la Défense et les fabricants d'armes. Entrée, plat, dessert. Ça, c'est le déjeuner surprise de la rentrée. Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy assis en tête à tête hier. C'est une information Europe 1 que va vous dévoiler Victor Chabert. À 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bien loin des polémiques sur les chars à voile, il veut une commission d'enquête parlementaire sur le nucléaire. Le président des députés LR à l'Assemblée, Olivier Marleix, est à l'offensive dans ce domaine qu'il connaît bien. Il pointe la responsabilité d'Emmanuel Macron. Son interview est à suivre tout à l'heure.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri. Dites-vous comparer les prix plus que d'habitude, vous, quand vous faites le plein en ce moment à la pompe?
Évidemment, ouais, évidemment. Voilà. Tout le monde le fait.
Vous n'êtes pas le seul, clairement. Nombreux sont les automobilistes qui font d'ailleurs désormais le plein chez Total. Aux 30 centimes de ristourne du gouvernement mis en place la semaine dernière, le pétrolier offre une réduction supplémentaire à la pompe. Résultat, c'est la cohue dans les stations du groupe français, aux grandes dames des autres enseignes, qui évoquent une concurrence déloyale. Reportage à Nantes du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard.
Il y a des stations, malheureusement, ils vont mettre la clé sous la porte, ils seront plus rentables, on va mettre des automates ou on va les raser.
Gérant d'une station indépendante dans le centre de Nantes, Anthony craint le pire pour lui et certains de ses collègues.
On va droit dans le mur.
Les raisons de ce crash, les automobilistes qui, eux, vont droit chez Total, où ils paient jusqu'à 30 centimes moins cher le litre, des prix qui défient et anéantissent aussi toute concurrence.
En fait, nous sommes encerclés de 3 stations Total Access.
Fatima, gérante d'une station Avia.
Du coup, nous n'avons presque plus personne, nous perdons au moins 70% de notre clientèle. Ils vont tous chez Total.
Et les rares qui font halte ici le font par défaut puisque certaines stations Total, victimes de leur succès, se retrouvent à sec.
Normalement, je vais chez Total, ouais. Et en fin de compte, il y a des plots devant la station, donc c'est fermé.
Elles ont toutes été vidées. Sinon, j'y serais allé chez Total.
Et là, Total est fermé, il n'y a plus de carburant.
Un carburant que les clients viennent donc trouver ailleurs, provisoirement et surtout en quantité minimum.
Les clients qui viennent là vont nous mettre 5 ou 10 euros le temps que Total fasse un approvisionnement. Ils ne font pas le plein complet.
Par conséquent, les autres stations sont loin d'en profiter, y compris les grandes surfaces où d'ordinaire l'essence y est souvent moins chère. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
8h04 sur Europe 1, le projet de loi travail au menu du Conseil des ministres ce matin.
L'objectif plein emploi et pas plus de 5% de chômeurs pour le gouvernement qui veut répondre aux difficultés de recrutement dont souffrent beaucoup de secteurs. L'exécutif va aussi présenter sa réforme de l'assurance chômage, prolonger jusqu'à l'an prochain les règles décidées en 2019, avec la possibilité de les durcir quand le marché va bien, de les assouplir quand ça va mal. Projet qui sera examiné au Parlement le mois prochain et auquel s'opposent déjà tous les syndicats.
Voilà, au programme également le projet de loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, 15 milliards d'euros sur 5 ans. C'est inspiré des lois de programmation du ministère des Armées.
Le ministère des Armées, justement, sur le pied de guerre. Aujourd'hui, le ministre Sébastien Lecornu organise une table ronde avec les 8 industriels français et représentants du secteur de la défense. Au cœur des échanges, l'économie de guerre, un terme qu'Emmanuel Macron avait déjà lâché le 13 juin dernier lors du salon de l'armement à Paris-Nord, Villepinte.
Nous entrons dans une économie de guerre dans laquelle, je le crois, nous allons durablement devoir nous organiser. Reconstituer plus rapidement ce qui est indispensable pour nos forces armées, pour nos alliés ou pour celles et ceux que nous voulons aider. Une économie au fond dans laquelle on ne peut plus vivre au rythme et avec la grammaire d'il y a même un an. Tout a changé. Et ce changement, ce n'est pas simplement l'État ou les États qui peuvent en subir les conséquences. Ce sont tous les acteurs de la filière.
Voilà, tout a changé, dit le chef de l'État William Molinier. Il faut donc être prêt en cas d'attaque, les préparer nos militaires, notre artillerie, les canons César par exemple. La France, on le sait, en a envoyé 18 en Ukraine. Fabriquer un tel outil, ça prend plus d'un an et demi. Pour le ministre, il faut que cela aille plus vite.
Depuis sa nomination, Sébastien Lecornu a reçu dans son bureau à l'hôtel de Brienne une demi-douzaine d'industriels. Il entend les embarquer vers une économie de guerre, comprendre, produire plus vite et moins cher. Ce qui pose au-delà de l'injonction des choix stratégiques comme celui de l'ultra spécialisation du matériel. Pour augmenter les cadences de livraison, l'État souhaite, selon nos informations, des outils plus simples à fabriquer, quitte à faire l'impasse sur certaines options. Vient ensuite la question des stocks. Livrer un canon sans s'assurer que les munitions seront disponibles n'a aucun sens, argumente-t-on au ministère des Armées. Autre sujet majeur, celui de la visibilité des carnets de commandes. Les industriels estiment qu'ils ne peuvent pas pleinement s'investir si les contrats ne sont pas signés. Pourtant, ils ont une bonne visibilité, conteste-t-on dans l'entourage de Sébastien Lecornu. À eux aussi de faire un pas vers nous, poursuit-on. Enfin, la question de l'autonomie stratégique est cruciale. L'État veut relocaliser la production de certains matériels pour ne pas être dépendant d'un fournisseur étranger, mais cela nécessite des garanties entre le public et le privé. C'est pour cela que, selon nos informations, une liste d'engagements mutuels doit être signée par la Direction Générale de l'Armement et les industriels à l'issue de cette table ronde.
William Molinier.
On ne sait pas ce qu'ils avaient dans l'assiette, mais visiblement ils avaient des choses à se dire. Nicolas Sarkozy et Éric Zemmour ont déjeuné en tête à tête hier.
C'est une information Europe 1 que vous nous révélez ce matin, Victor Chabert, bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
À l'initiative de cette rencontre plutôt inattendue, le leader de Reconquête qui tente un retour sur la scène politique, meeting de rentrée prévu dimanche dans le Var. Victor, que sait-on de ce déjeuner exactement?
Oui, selon nos informations, Éric Zemmour et Nicolas Sarkozy ont déjeuné ensemble hier, mardi 6 septembre. Vous l'avez dit, cette rencontre était à l'initiative d'Éric Zemmour. Le président de Reconquête avait demandé à plusieurs reprises à rencontrer Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle. Mais l'ancien président de la République, pour éviter toute polémique pendant le scrutin, avait décliné les sollicitations de l'ancien journaliste. Au cours de ce déjeuner, ils ont notamment évoqué la dernière échéance électorale. Éric Zemmour a longuement raconté à Nicolas Sarkozy comment il avait vécu de l'intérieur cette course à la présidence de la République. Le candidat avait d'ailleurs repris à son compte plusieurs éléments de la campagne de l'ex-chef de l'État en 2007, notamment le travailler plus pour gagner plus. Selon les proches de Nicolas Sarkozy, il ne faut voir aucune interprétation ni aucune signification politique à cette rencontre. Éric Zemmour ayant pendant de nombreuses années participé à des conventions de l'UMP ou des Républicains. Pour rappel, l'ancien président de la République n'avait pas apporté son soutien à la candidate LR Valérie Pécresse au premier tour et appelé à voter Emmanuel Macron au second.
Merci Victor Chabert du service politique d'Europe 1.
8h08, troisième journée d'audience au procès de l'attentat de Nice aujourd'hui.
Hier, on est entré dans le vif du sujet. Après un débat sur la diffusion des images de la promenade des Anglais ce 14 juillet 2016, le président de la Cour d'assises spéciale de Paris a résumé les faits. Il a ensuite donné la parole aux 7 accusés présents. Frédéric Michel nous a rejoint dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour Europe 1. Frédéric, 5 accusés sont poursuivis pour infraction à la législation sur les armes. 3 autres pour association de malfaiteurs terroristes. Ils encourent la plus lourde peine, 20 ans de réclusion criminelle.
Oui, et dans le box des accusés, Ramzi Arefa, veste noire, barbe de 3 jours, répond la voix tremblante. En tant que niçois, ce n'est pas possible de penser que je suis impliqué dans des faits aussi graves. J'étais un intermédiaire pour vendre un pistolet. D'habitude, c'est de la drogue que je lui vendais. Il n'était pas mon ami et je n'étais associé avec lui sur aucun projet. En survêtement d'une célèbre marque française de sport, Chokri Chafroud, Pantois s'exprime en arabe. Lui aussi est détenu et raconte le visage en sueur. Aujourd'hui, j'ai peur, je suis stressé. Mohamed était un copain, je ne trouve pas les mots pour décrire ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il avait dans sa tête, mais je ne l'ai pas aidé. Dans un flot de paroles ininterrompues, le dernier accusé pour association de malfaiteurs terroristes, Mohamed Graieb, parle surtout de lui, de ses parents, de sa femme. Ce qui s'est passé est grave, injuste. Je comprends la tristesse des familles. J'espère qu'elles trouveront la vérité, mais moi, je suis innocent. À plusieurs reprises, il répète, cette ordure m'a piégé. Le terrorisme et la violence, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un homme qui a fait ça. Il a cassé ma vie comme il a cassé la vie de plusieurs personnes. Jamais je ne pardonnerai. Graieb et Chafroud encourent 20 ans de réclusion criminelle. Ramzi Arefa, la perpétuité, pas pour les faits jugés, mais simplement car lui est en état de récidive.
Merci Frédéric Michel qui suit ce procès pour Europe 1. On termine avec un mot de sport quand même.
Ah oui, pardon,
une petite, bah oui, des petites félicitations, des grandes félicitations pour Caroline Garcia, qualifiée pour les demi-finales de l'US Open. La tennis française l'attendait depuis 2013. La Lyonnaise a expédié le match face à Coco Gauff, la pépite américaine, pourtant qui était encouragée par le public new-yorkais. Elle tentera donc demain de se hisser jusqu'en finale, la française, face à Once Jabeur, 5e joueuse mondiale.
Ouais, encore une sacrée muraille pour Caroline Garcia, mais elle a l'air invincible.
Elle est
en
forme, Caroline.
Merci beaucoup, Fanny. C'était votre journal.